Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Eh bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement sensible, c'est celui de l'énergie, sans laquelle ce monde ne serait pas ce qu'il est. Et vous l'avez remarqué, bien sûr, l'énergie aujourd'hui est au centre de l'actualité. Point n'est besoin d'y revenir. Alors on va l'évoquer à travers un essai qui s'appelle « Sans transition ». Sous-titré « Une nouvelle histoire de l'énergie ». C'est écrit par Jean-Baptiste Fressoz, je vais tout vous dire de lui. C'est publié au Seuil dans la collection Écocène. C'est un livre qui est sorti en janvier 2024, mais qui a tout à fait son actualité aujourd'hui. Un peu plus gros que d'habitude, 407 pages, et il vous coûtera 24 euros. Franchement, il les vaut bien. Alors Jean-Baptiste Fressoz, c'est un homme assez jeune, il est né en 77, c'est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Et il a notamment étudié tout ce qui est anthropocène et transition énergétique. Alors, il a commencé ses études supérieures par une classe préparatoire. Il a intégré l'École normale supérieure de Cachan, qui est entre-temps devenue l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Il a fait une thèse en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut universitaire européen de Florence, sous la direction de Dominique Pestre. Il est également maître de conférence à l'Imperial College à Londres. Directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, membre du centre de recherche historique de l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent essentiellement sur l'histoire environnementale, l'histoire des savoirs climatiques et bien sûr l'anthropocène et la transition énergétique. Donc vous voyez que c'est un homme qui est parfaitement armé pour traiter de son sujet. L'éditeur le Seuil, et surtout cette collection Écocène, c'est une collection qui a vocation à interroger les enjeux écologiques globaux et l'avenir de la planète. Alors il y a des scientifiques, des chercheurs, des humanités, des gens qui travaillent sur l'environnement, des acteurs, des alternatives et des luttes socio-écologiques. La collection Anthropocène, ben, ça fait 10 ans qu'elle existe et elle a changé de nom. Elle s'appelait Anthropocène, elle s'appelle aujourd'hui Écocène, mais malgré ce changement de dénomination, elle a gardé parfaitement sa ligne éditoriale. Alors la maison se veut publier des ouvrages qui permettent de comprendre notre temps et d'imaginer ce que le monde doit devenir. L'ambition des fondateurs des éditions du Seuil est toujours intacte et plus utile que jamais, bien sûr. Le Seuil est, il faut le savoir, au premier rang des maisons généralistes et présent à peu près dans tous les domaines, hein, littérature française, étrangère, thriller, policier, sciences humaines, documents, etc., etc. Elle a été créée en 1935 sous le signe de l'engagement intellectuel et du capitalisme social. On ne va pas revenir sur toutes ses origines, d'autant plus que je crois vous en avoir déjà parlé à l'occasion d'un précédent ouvrage. Alors, la quatrième de couverture, eh bien, je vous la livre. Voici une histoire radicalement nouvelle de l'énergie qui montre l'étrangeté fondamentale de la notion de transition. Elle explique comment matière et énergie sont reliées entre elles, croissent ensemble, s'accumulent et s'empilent les unes sur les autres. Pourquoi la notion de transition énergétique s'est-elle alors imposée ? Comment ce futur sans passé est-il devenu, à partir des années 1970, celui des gouvernements, des entreprises et des experts ? Bref, le futur des gens raisonnables. L'enjeu est fondamental car les liens entre énergie expliquent à la fois leur permanence sur le très long terme, ainsi que les obstacles titanesques qui se dressent sur le chemin de la décarbonation. Telle est cette quatrième de couverture. Et alors allons jeter un œil à ce qui est la table des matières. Voilà, alors je vais vous donner, juste pour que vous ayez une idée rapidement de quelques grands thèmes, de quelques grands chapitres, à la lueur d'une bougie, une histoire boisée du charbon, liaison carbone, les racines de la croissance, la pétrolisation du bois, les Malthusiens atomiques, l'invention de la crise énergétique, la carte technologique. J'en ai sauté, hein, ce ne sont que quelques-uns, mais ça vous donne un peu une idée du contenu du livre. Alors, quelques lectures brèves comme d'habitude. Voyons une qui se trouve à la page 200, donc à peu près au milieu du livre. Voilà, on ouvre les guillemets. Il faut s'y résoudre, il n'y a jamais eu de transition énergétique hors du bois. Ni au 19e, ni au 20e siècle, ni dans les pays pauvres, ni dans les pays riches. Le symbole parfait de cette non-transition se situe au cœur de la région qui est pourtant censé en être le berceau. Entre Leeds et Sheffield, au milieu du bocage anglais, se dressent les 7 tours de refroidissement de la centrale de Drax. Drax prétend produire une électricité sans carbone, ce qui est doublement faux. D'une part, elle contribue à la dégradation des forêts. De l'autre, son fonctionnement dépend de bout en bout du pétrole, celui qui alimente les machines forestières, les camions, les broyeurs et les navires qui traversent l'Atlantique. En 2021, Drax a brûlé plus de 8 millions de tonnes de granules de bois, c'est davantage que la production forestière du Royaume-Uni, pour satisfaire environ 1,5% des besoins énergétiques du pays. C'est aussi 4 fois plus de bois que ce que brûlait l'Angleterre au milieu du XVIIIe siècle. Un beau résultat après 200 ans de transition énergétique. Drax témoigne de l'impasse que représente une transition à rebours d'une économie fossile prétendant redevenir organique sans diminuer de taille. Et l'on pourrait faire la même remarque à propos des biocarburants censés décarboner le transport aérien et maritime. Et notre passage, voyons, j'avais choisi quelque chose que je dois retrouver. Alors, c'est un peu plus au début du livre, hein, page 113, dans un chapitre intitulé « Liaison carbone ». L'action est ailleurs, alors qu'en réalité, le charbon se modernise à toute vitesse et qu'il tient le premier rôle dans l'histoire de l'électricité, de l'acier, du ciment, de l'automobile et même du pétrole. Dans les ouvrages récents rédigés par les meilleurs spécialistes d'histoire environnementale ou d'histoire de l'énergie, charbon et pétrole sont présentés comme deux régimes énergétiques ou deux blocs de développement distincts. Il faut au contraire considérer les deux grandes énergies fossiles du XXe siècle comme profondément intriquées. On ne comprend rien à l'histoire du pétrole sans celle du charbon et inversement. Ce point est d'autant plus important que de cette symbiose découle toute la dynamique matérielle du XXe siècle. C'est en effet avec des agents en acier, fabriqués avec l'énergie du charbon, émus par celle du pétrole, que la plupart des matières, le bois, les produits agricoles, les métaux, sont produites, extraites, transportées. La transition est l'idéologie du capital du XXe siècle, nous dit l'auteur. Et grâce à elle, ce mal devient un remède. Les industries polluantes, des industries vertes en devenir, et l'innovation, c'est notre bouée de sauvetage. Et il insiste beaucoup là-dessus, la puissance de séduction de la transition est immense. Nous avons tous besoin de basculements futurs pour justifier la procrastination présente. Et l'histoire de la transition, pour lui, et le sentiment troublant de déjà-vu qu'elle engendre, devrait nous mettre en garde. Fressoz nous dit, il ne faudrait pas, et je le cite là, il ne faudrait pas que les promesses technologiques d'abondance matérielle sans carbone se répètent encore et encore, et que, après avoir franchi le cap des 2 degrés centigrades dans la seconde moitié de ce siècle, elles nous accompagnent tout aussi sûrement vers des périls plus importants. Alors ce livre, pourquoi faut-il le lire? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien surtout, Fressoz nous fournit la première enquête généalogique sur la notion de transition énergétique. Face à ces discours qui remettent la transition toujours à plus tard, cet historien relève le défi politique inédit d'une sortie définitive des énergies fossiles. Or, la sortie de l'ouvrage à l'époque a suscité une véritable polémique dans l'écologie politique française. Certains l'ont accusé de défaitisme, les autres l'ont couvert d'éloges en disant « mais c'est une enquête aussi palpitante que renversante », ce qui est vrai d'ailleurs. Et pour mieux comprendre ce débat, il convient de se pencher sur les deux grandes thèses que Jean-Baptiste Fressoz défend au cours des 12 chapitres qui composent l'ouvrage. D'abord, l'auteur décrit une dynamique cumulative des énergies qui ont tendance à s'ajouter plutôt qu'à se substituer les unes aux autres et au cours de l'histoire. Et ensuite, l'auteur nous retrace les origines intellectuelles de la notion de transition en insistant sur son caractère attentiste et idéologique. À l'instar de celle du passé, la transition vers l'énergie non fossile est présentée comme une substitution permise par le progrès technologique, dont l'essor demeure cependant bien incertain, autant que le problème de la sortie des fossiles, simplement présumé par le récit transitionniste, n'est pas résolu. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Sacha Gauchy. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.